OK, hey, il va se passer quelque chose dans les prochaines heures, puis ça, c'est Christian qui va nous en parler.
Salut Bernard.
Destination Mars.
Effectivement, on est à peu près à une heure avant l'atterrissage de l'astromobile, en fait, Persévérance sur Mars. Écoute, je dois t'avouer que ça, c'est des trucs qui m'allument beaucoup. Puis en même temps, je trouve que ça nous ramène aussi à ce que les Américains font du mieux. C'est-à-dire que avec les bévues, les bêtises du président Trump au cours des dernières années, les quatre dernières années, on dirait que ces bévues-là étaient tellement omniprésentes qu'ils ont éclipsé des grandes réalisations que les Américains ont faites. Et on le sait dans le domaine de la conquête de l'espace, les Américains ont excellé. Hein. Ils ont envoyé des hommes sur la Lune, les premiers envoyés des vaisseaux sur Mars. Ils ont pas leur pareil pour pouvoir créer des grands projets sociétals comme ceux-là qui font briller les Américains, leurs connaissances, leur savoir-faire. Et là, enfin, on a un projet qui nous ramène à cette grande période que les Américains ont su cultiver avec la conquête de l'espace. Et là, écoute, c'est le fun de voir les Américains faire quelque chose qui nous éloigne un peu de ces absurdités à la Donald Trump, tu vois.
Alors, évidemment, il y a un risque. Il y a un risque.
Bien sûr qu'il y a un risque.
Je veux dire, l'astromobile, comme tu l'appelles, elle peut s'écraser à l'atterrissage, là.
Oui, et c'est je vais essayer de comment je pourrais essayer d'aborder cette nouvelle-là un peu différemment de ce qui a été fait dans d'autres médias, parce que tout le monde parle de l'arrivée de Persévérance sur Mars, et c'est vrai que c'est un grand moment, mais c'est un moment aussi qui est inquiétant. Hein. Il faut savoir que, bon, Persévérance va se poser aux alentours de 16 heures, et là, une fois que le robot sera sur Mars, en supposant que tout aille bien, ce robot aura pour mission première, et ça c'est intéressant aussi, sa mission première de Persévérance, c'est de découvrir des formes de vie passées sur Mars. Donc, il va atterrir dans un cratère, le cratère Jezero, qui était, il y a à peu près 3 milliards d'années, on suppose qu'il était recouvert d'eau. Donc, comme l'eau est un des éléments essentiels à l'existence de la vie, l'apparition de la vie, c'est probablement à cet endroit qu'on a le plus de chances d'en trouver. Mm-hmm. Il aura aussi comme une technologie assez particulière, un petit hélicoptère qui s'appelle Ingéniosité, qui pourra voler à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la surface martienne et nous montrer donc des plans globaux, des images plus étendues de Mars. Et une bonne nouvelle également pour nous, parce que c'est pas que le savoir-faire américain, l'astromobile Persévérance sera notamment conduit depuis la Terre, bien sûr, on le comprend, par une Québécoise, qui est Farah Alibi, que tu as déjà reçue à l'émission.
On lui a parlé hier, oui, exact. Avant hier,
et que tu avais également interrogé là, quelque part en juillet, au moment du lancement de la sonde, parce qu'on avait annoncé qu'elle serait le pilote principal sur Persévérance. Mais au cours des 10 derniers jours, 3 sondes sont arrivées sur Mars. Donc, cet après-midi, on se croise les doigts pour Persévérance. Mais la semaine dernière, les Émirats Arabes Unis ont entré dans le cercle très fermé des pays à avoir envoyé des sondes vers d'autres planètes en mettant en orbite autour de Mars une sonde qui s'appelle Al-Amal, qui veut dire espoir, qui, elle, va étudier le climat, la température, les gaz qui sont présents sur Mars. Et également, la semaine dernière, les Chinois ont mis en orbite autour de Mars, Tiawen 1, hein, qui veut dire question vers le ciel. Et cette sonde est beaucoup plus complexe. Hein. Elle est composée de 3 parties principales qui, pour l'instant, restent en orbite autour de Mars. Et quelque part, au début mai, la sonde va larguer vers la surface de Mars un atterrisseur sur lequel se trouve également un petit astromobile qui va descendre vers la surface de Mars, se promener également et faire des relevés, des échantillonnages. Mais il faut savoir que Mars, même si on a l'impression que c'est devenu presque un jeu d'enfant, c'est une destination excessivement difficile. On a aujourd'hui là, les pays qui se sont lancés pour essayer d'envoyer des sondes autour de Mars ou sur Mars. C'est à peu près un taux d'échec de 50%. Et on ne parle pas seulement des sondes envoyées dans les années 60. Hein. La première sonde à nous avoir transmis des images de la surface de Mars est une sonde américaine, une sonde qui s'appelait Mariner 4 en 1965. Et là, donc, on a vu une image de Mars très différente de ce qu'on imaginait dans la science-fiction. Mais après ça, bien sûr, les Américains Américains ont renvoyé des sondes, les Soviétiques ont envoyé également des sondes, et c'était pratiquement au départ, c'était échec sur échec. Les sondes se perdaient en trajectoire entre la Terre et Mars, elles se perdaient en orbite autour de Mars ou s'écrasaient directement sur Mars. Et je ne te parle pas seulement, comme je le dis, de sondes lancées dans les années 60 ou 70, hein. Encore dans les années 80, 90, on a tenté, même dans les années 2000, on a envoyé des sondes vers Mars et elles se sont butées sur la surface. Et dans d'autres cas, on a mis des petits astromobiles sur place qui ont bien fonctionné. Il faut savoir que les missions ont des durées de vie déterminées. Quand elles vont plus loin que cette durée de vie, c'est du bonus, hein. C'est plus qu'on en demandait. Mais c'est vrai que si les petits robots ces dernières années que les Américains ont mis sur place ont bien fonctionné, ont transmis des images spectaculaires. L'un d'entre eux est toujours en activité, Curiosity, qui envoie régulièrement des images. Mais on en a quand même perdu deux au cours des dernières années. Un s'est enlisé dans une trappe de sable.
Ben oui.
Et un autre, il y a eu une tempête épouvantable de sable sur Mars. C'était en 2018. La tempête a duré pendant des mois. Le robot s'est mis en hibernation. Mm-hmm. Malheureusement, il s'est recouvert de sable. Et comme il s'est recouvert de sable, les panneaux solaires n'étaient plus exposés pour alimenter son système électrique, ses batteries. Tant et si bien qu'on n'a jamais réussi à ressusciter la sonde.
Mais Curiosity, lui, il n'a jamais lâché. C'est comme le lapin énergisaire, Curiosity.
Ouais, écoute, il est là depuis une dizaine d'années.
Ah, il devait durer quoi? Quelques mois, hein?
Oui, effectivement, la durée de vie de Curiosity était d'une année martienne, comme d'ailleurs Perseverance, qui représente à peu près 2 ans terrestres. Et pourtant, il est là depuis une dizaine d'années, même un peu plus, je crois que c'est 15 ans, à nous transmettre des informations. Il fonctionne très, très bien. Il a survécu aux intempéries martiennes. Mais il faut que je te dise, Bernard, que dans les années 70 jusqu'au début des années 90, les échecs sur Mars étaient si nombreux que dans la communauté des amateurs de complots, de théories, de conspirations, on était persuadés. Rappelle-toi, dans les années, la sonde Viking, son orbiteur avait photographié une espèce de visage sur Mars qui éventuellement s'est révélé rien qu'un simple rocher. Mais ceux qui croyaient aux hypothèses de conspiration croyaient que la NASA essayait de nous dissimuler une réalité extraterrestre en faisant porter le chapeau à la difficulté des opérations.
Aïe, aïe, aïe. En tout cas, hey, 16h, hein, on écoute ça.
Absolument, Bernard.
Ah oui, ça va être formidable. Merci beaucoup, Christian Page. On se repart jeudi prochain.
Absolument.
À demain, tout le monde. À demain. Bye.